Tu vois où on est, Younes, là?
Ouais.
Ok, on est où?
Alors, en face de moi, il y a la route.
D'accord, c'est que tu te rappelles le nom de la route?
Giraud de Chantran, je crois.
Ouais, c'est ça.
Je connais pas trop le nom.
Ouais, c'est ça. Alors, mets-toi dans l'axe de,
ouais.
On va dire que tu vas au kebab.
D'accord.
Ok.
Donc,
tu vas au kebab à...
Ouais, à... Enfin, street food.
Ouais, street food.
Donc là, actuellement, pour aller à street food, je vais aller tout droit. Je vais passer sous la passerelle du lycée. Et je vais traverser sur la gauche, pour aller sur la gauche. Après traverser, je vais aller tout droit encore. Je vais tourner à gauche. Et ici, en face de moi, il y aura le passage Pasteur. Donc je tournerai à gauche et j'irai tout droit sans traverser.
Comment traverser une géographie quand on ne la voit plus? Un sens où fausse compagnie et tous les autres viennent à la rescousse. Qu'il s'agisse d'un accident de la vie ou d'un jeu, le mot d'ordre est le même. Accepter de lâcher prise et aiguiser nos sens. Être à l'affût du moindre signe afin de réinventer l'environnement qui nous entoure. Ils sont déficients visuels, géographes, enseignants de locomotion, preneurs de son ou metteurs en scène. Tous réinventent le paysage, leur imaginaire en étendard. Géographie. Épisode 1. La géographie dans les pieds.
Alors Younes, j'ai connu, il était tout petit. Enfin tout petit, il était en primaire à Belfort. Et du coup, on a commencé déjà à travailler dans son quartier. Ses parents habitent dans un immeuble, à l'époque, habitaient dans un immeuble tout près de l'école. Donc on a travaillé déjà un petit peu son quartier, les trajets pour aller à l'école, revenir de l'école, etc. Et puis après, il est venu donc sur Besançon, il est interne maintenant au centre. Et on a repris un petit peu tout ce qui était découverte du collège. Trajet, prendre le bus, faire des traversées dans les carrefours à feu, etc. Et après, là, c'est son année de seconde. Et alors, il y a l'année de seconde, donc il y a le côté très fonctionnel, c'est-à-dire se représenter son nouvel établissement scolaire, qui est quand même grand, oui. Beaucoup plus grand que son collège. Le quartier, prendre le bus, et puis il y a la vie quand même lycéenne qui change par rapport à la vie collégienne, parce que beaucoup plus de liberté, la vie avec les copains. Younes est quelqu'un de très sociable, donc il me demande maintenant, comme il est très curieux, qu'il a un appétit de découvrir et puis une volonté de faire comme les copains. Et bien là, par exemple, pour le kebab, il veut y aller tout seul, revenir tout seul. Il ne veut pas toujours être en technique de guide avec les autres. En fait, moi je travaille dans un institut qui accueille des jeunes de 0 à 20 ans, c'est l'agrément de l'institut.
Jean-Luc Boisnin, enseignant de locomotion.
Donc on commence l'accompagnement le plus tôt possible, dès l'instant où le petit est en possibilité de marcher. Et c'est vrai qu'on va, on va travailler avec des petits aveugles congénitaux, qui naissent aveugles, où on va travailler avec des personnes, des enfants, des adolescents qui peuvent donc devenir aveugles en grandissant, et majoritairement avec des jeunes qui sont malvoyants. C'est un métier effectivement qui est assez peu connu, parce qu'en fait nous sommes peu nombreux sur la Franche-Comté. Ce métier consiste à aider les personnes en situation de handicap visuel, donc malvoyants, aveugles, à se représenter l'espace et à pouvoir se déplacer en autonomie et en sécurité, dans les lieux connus et inconnus. Alors là, j'ai repéré qu'il y avait un jeune homme qui s'est approché de lui pour lui proposer de l'aide, et il a refusé l'aide. Voilà. Et je dirais qu'une des appréhensions premières quand on est jeune instructeur de locomotion, c'est la capacité à laisser filer le jeune devant soi et à le regarder, mais comme une personne anonyme en fait, et avec la peur qu'il ait tout bien analysé, tout bien pris en compte, les potentiels dangers, quoi. Et après se dire que même quand on sera plus là, il faudra qu'il le fasse tout seul. Ça, c'est, Il y a quelques nuits blanches avant l'octroi des premiers feux verts.
Ouais. Ouais.
Je me présente, je m'appelle Enzo Civade, j'ai 18 ans.
Enzo Civade, lycéen.
Je suis scolarisé actuellement à Pasteur et je vais partir en faculté de psychologie l'année prochaine. Et donc je suis aveugle depuis bientôt 5 ans, atteint par la rétinoschisystrie à l'X, qui est une maladie génétique qui forme un beau mot Scrabble, mais pour le coup qui est une maladie rare en France, environ 50 cas, et qui fait que je suis malvoyant de naissance. Je suis arrivé au CRDV en internat à partir de ma seconde, donc pour le lycée. Ouais. Je proviens en effet d'un petit village, d'un petit patelin, très isolé. Ouais. C'est pour ça que la décision de venir en internat pour avoir un plus grand suivi a été prise, ouais. Et particulièrement dans la locomotion où on a repris de zéro, car les petites séances qu'on avait pu avoir étaient des séances un peu d'urgence pour me refaire travailler à technique de guide et deux, trois principes, mais très généraux pour que je puisse me déplacer un tout petit peu seul, mais sans pouvoir prendre conscience de ce qui m'entourait par des techniques
dans le
officielles.
Détail, finalement.
Officielles.
Ouais. Ouais. Passer à la grande ville, comment tu l'as abordé ça? Parce que s'il y a quand même un maximum d'informations nouvelles qui surgissent de partout.
C'est arrivé un peu comme en trois phases, je dirais. Pour le coup, déjà en campagne, oui, en effet, il y a beaucoup moins de bruit. Et du coup, quand je suis arrivé en tant qu'aveugle à Besançon, ça a été déjà un gros brouillage sonore et des sens, parce que j'arrivais pas à identifier tout ce qui était autour de moi, et c'était brouillon dans ma tête. Il y avait des bruits, il y avait le sens des masses que je savais pas encore manipuler, et qui s'énervait au moindre mur, et derrière, au final, je savais pas comment exploiter tout ce qui était autour de moi. Puis j'ai eu une phase un peu moins brouillonne grâce au cours de locomotion où j'ai commencé un peu à apprendre ce qui était autour de moi. Mais là, je voyais les éléments comme quelque chose d'unique. Et je me rappelle de quelque chose dans le premier trajet que j'ai appris. Je me suis perdu parce que j'avais touché une bouche à incendie qui est une seconde bouche à incendie alors que j'en avais identifié une plus tôt qui était un repère. Et le fait d'avoir touché cette seconde, ça m'a fait donner l'impression que j'étais de nouveau à la première, sauf que je l'avais passée depuis un bon moment. Et donc, j'avais encore une mauvaise compréhension de mon environnement, parce que je cherchais encore une fois quelque chose de très synthétique et de peut-être trop scolaire et moins intuitif. Et là, aujourd'hui, j'en arrive à un point où chaque élément que je peux prendre, je le récupère. Et au final, avoir autant de bruit et de sens en éveil me permet de trouver d'autant plus mon chemin, mes trajets.
Dans la forêt fait partie d'une trilogie.
Claire et Massimo Furlan, metteurs en scène.
La genèse, en fait, enfin, je ne saurais même pas dire où commencer. Ben, peut-être, au fond, mes premières balades en forêt. Évidemment, être dans la forêt, c'est la traversée, c'est marcher, hein, c'est prendre un rythme. Et se passe là plein de choses. Et au point où je dis à Claire un jour, mais tu devrais venir avec moi dans la forêt, c'est magnifique. Enfin, c'est. Et on y va comme ça, etc. Et au point où, au final, on y va, mais on est silencieux. On ne parle pas.
C'est à la fois un univers familier et en même temps qu'il y a un univers d'une complexité telle que même si on y a été beaucoup, on ne l'appréhendait pas comme un espace aussi aussi riche et foisonnant. Je crois qu'on a commencé à repousser l'heure de promenade vers la fin de journée et puis le début de nuit parce qu'on a commencé à voir des animaux et que c'est au moment de la tombée de la nuit qu'on a vu qu'il y avait plus d'animaux et on s'est dit « Ah mais oui, en fait, si on veut voir des animaux, il faut qu'on aille plus tard. » Et puis finalement, on a pris plaisir à y aller même la nuit parce qu'on s'est rendu compte qu'en effet, la question des présences animales était beaucoup plus fine et nous alertait en fait très différemment qu'avec le jour, notre œil était attiré par plein d'éléments parce qu'on voyait tout. Et puis la nuit, toute notre attention était focalisée sur le son en particulier. C'est là qu'on s'est mis à entendre des animaux, sentir des présences et à jouer aussi avec cette question d'une certaine fascination pour l'obscurité, quoi. Il y a plusieurs choses qui sont apparues. C'est d'une part les pieds, hein, parce que du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est les pieds qui sont les lecteurs du paysage. Enfin, c'est eux qui nous aident à appréhender le chemin dans la nuit. Donc, on fait confiance à ses pas. Et puis, les pas, ils perçoivent les descentes, les montées, la nature du terrain, s'il est caillouteux, s'il est... si c'est de la mousse, si c'est des feuilles, si c'est des pierres. Donc il est chaque fois en train de donner des informations au corps. Donc le corps, il est tout le temps en train de s'adapter, de réagir. Du coup, on est obligé de faire confiance au corps qui se débrouille à sa manière de façon habile, alors même qu'il est en difficulté puisqu'il il ne perçoit pas le relief du terrain. Et puis en même temps, bah, c'est l'ouïe qui est extrêmement développé parce qu'à la fois on est à l'écoute du paysage, mais on est à l'écoute de ses habitants, donc des oiseaux de nuit par exemple, ou de la présence hier soir d'un chevreuil. C'est extrêmement émouvant parce qu'on ne le voit pas, mais on l'entend et on sent même son déplacement comme ça à travers le feuillage, ou les oiseaux qui juste nous passent devant à la dernière seconde au moment où on traverse le chemin. Donc la question de l'ouïe, la question des pieds, et puis la question du nez et de l'odorat, parce que la forêt sent extrêmement bon et toutes sortes d'odeurs. Là, hier soir aussi, du coup, il y avait les odeurs de l'eau, parce qu'on passe à plusieurs endroits auprès de l'eau. Donc, il y a l'eau, soit elle stagne, soit elle est en train de couler. Et elle a une odeur différente, on sent les champignons, on a l'impression presque de sentir les passages des animaux. Et donc on se dit, mais oui, cet odorat qu'on utilise aussi peu, qui vient plutôt en arrière-plan par rapport à la vue, il est tout à coup extrêmement sollicité. Le corps avait intégré le parcours de jour, et du coup, dans la nuit, le corps retrouvait des repères qu'on avait assimilés. Donc il y a une espèce de géospatialisation qui était faite grâce au fait qu'on avait énormément répété ces parcours.
Et va peu à peu naître ce projet aussi de partager cette expérience-là, très forte, très abstraite aussi, hein, beaucoup sur l'émotion, qui est devenue cette on va dire performance qui s'appelle « Dans la forêt ».
Nous, les instructeurs, on dit toujours cette phrase un petit peu qui pourrait être un petit peu provocante, mais on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cerveau. Dans le sens où la prise d'information, par les yeux évidemment, elle va renseigner le cerveau qui va décider de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, parce qu'on sera en danger, ou alors d'aller à droite, à gauche, etc. Donc en fait, nous, les instructeurs, notre objectif, c'est déjà de voir les possibilités visuelles de la personne et développer ces possibilités visuelles le maximum, pour que la personne s'appuie dessus. Mais après, ensuite, on va développer les autres sens. On va développer, par exemple, l'écoute, qui va être le premier sens compensateur par rapport à la vue. On va aussi travailler ce qu'on appelle tout ce qui est kinesthésique, c'est-à-dire qui monte, qui descend, tout ce qui est des verres aussi. Donc ça, c'est un troisième aspect. Le quatrième aspect, ça va être ce qu'on appelle le sens des masses, c'est-à-dire c'est la capacité qu'on a quand on est privé de la vue ou quand on voit peu, de pouvoir ressentir l'environnement, soit sur les côtés, soit en face, ou soit quand on passe dessous, hein, quand on passe sous un pont, une porte cochère, etc. On va ressentir en fait quelque chose, le plafond en fait, au-dessus de notre tête. Voilà. Et tout ça, c'est des renseignements qui sont très importants. Ensuite, on va travailler aussi tout ce qui est podotactile, hein, donc tout ce qui est avec les pieds. Si on marche sur du sable, du béton, des pavés, des dalles, tout ça, c'est de l'information qui, des fois, peut être aussi complétée ce qu'on appelle par le toucher indirect, c'est-à-dire c'est le toucher de la canne. la canne en fonction de là, ce qu'elle va toucher, si c'est du béton ou bien de l'enrobé ou du sable, eh ben forcément, ça ne fera pas le même bruit, la même musique, ça ne sera pas la même rendu aussi, parce qu'en fait, la canne ne va pas vibrer de la même façon. Et on va apprendre aux jeunes en fait, à jouer de ses sens et à l'exercer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il aura peut-être besoin de plus d'audition et de toucher de canne, et à un autre moment, ce sera peut-être plus sur le sens des masses et le kinesthésique. Et en fait, le jeune, il va jouer de ça pour pouvoir construire sa représentation. Alors, Younes, mets ta ligne d'épaule bien perpendiculaire, voilà, hein, sinon tu vas dévier. Alors, simplement, c'est parce que le monsieur se gare. Voilà, donc là, il fait signe à la voiture de passer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une voiture qui le laisse passer, c'est bien, mais ça fait un masquage sonore. Mm-hmm. Du coup, il n'entendra peut-être pas forcément la voiture qui viendra devant, mm-hmm. ou une trottinette électrique, etc. Voilà, la voiture s'arrête, il fait signe de passer. Fais plus amplement avec ton bras, Younes. Plus, voilà. Voilà, c'est bien. Là, il a compris. C'était une auto-école, hein.
Ouais.
Bon, d'où je viens, les seules voitures, c'est, on va dire, trois voitures par heure qui sont les personnes qui rentrent dans la résidence ou qui partent à leur travail, et le bus scolaire. On n'est pas du tout au même niveau que sur Besançon, où là, il y a des grands débits. Et au final, c'en est un très grand avantage, une véritable circulation, telle que pouvoir suivre le sens de circulation pour pouvoir longer un trottoir sans devoir frapper une des parois. Le bord du trottoir ou le mur, mais aussi ça permet de faire des traversées en sécurité, de se fier au final au démarrage des voitures, et donc il faut avoir une certaine circulation. Et aussi, de manière générale, ça permet de voir où il y a des virages, quand les voitures tournent, au moins on sait qu'il peut y avoir un carrefour, une branche, etc. Et c'est un côté rassurant tout ça, qui permet de comprendre un peu aussi la construction de la ville, que dans le village il peut y avoir un carrefour, il y a une voiture qui... Il y a une voiture qui arrive, elle prend évidemment qu'une seule branche, elle va pas faire des tours de carrefour, ben, c'est compliqué d'identifier qu'il y a vraiment un rond-point ou quelque chose qui puisse être significatif.
Alors, vas-y un petit peu plus loin. Parce que là, c'est l'entrée du magasin. Ouais, ok. Là, c'est pareil, ils vont mettre une bande podotactile, ok. J'ai demandé à ce qu'ils en mettent une, ouais, parce que là, tu vois, tu as juste les 2 cm de ressaut. C'est pas évident quand on n'a pas un bon toucher de canne ou si on est un petit peu fatigué. Il va trouver son lieu.
Yes. Là, bah, je suis à Street Food.
Ah bah voilà.
Donc à notre destination, Pepper.
Voilà. Comment ça s'est passé pour toi, ça?
Bah ça va, hein. C'était super.
Oui, là, c'était un peu un...
Il y avait juste ce truc-là, je sais pas ce qu'il y avait là.
Ah, c'est des petites terrasses. C'était un petit bar, ils ont mis deux, trois petites tables.
Ah, okay.
Avec quelques chaises. Ouais. Peut-être qu'il n'y était pas avant, c'est ça la ville hein, aussi, c'est que ça bouge toujours un petit peu, c'est jamais pareil d'une fois sur l'autre. Hein. Ouais. Donc maintenant, on fait le chemin retour.
Ouais, inverse, ouais,
hein, d'accord.
Ouais.
Bon, il suffit, entre guillemets,
de faire les choses à l'inverse.
Voilà, c'est ça.
Ouais,
ok, ouais,
à total.
Allez, à toutes. Bon, il marche pas trop vite parce que tu nous sèmes. Hein.
Pardon.
Mais non, je plaisante. Je plaisante. Non. On te suivra, t'inquiète. On t'a à l'œil. Il a en plus une excellente mémoire, donc les petites tables qui sont du coup sur le côté droit maintenant, là, il les a anticipées, il a mémorisé le vécu distant, c'est ce qu'on appelle aussi ça, c'est il savait assez précisément en fait où était située cette petite terrasse qui n'était pas là avant, pour l'intégrer dans son déplacement.
Aujourd'hui, j'ai un chien guide du nom de Hooper qui m'accompagne ici, qui provient de la fondation de Frédéric Galliane et qui a remplacé la canne depuis octobre dernier. Ça a aussi encore changé ma vision de la locomotion, de l'apprentissage, etc. Un chien guide, ça va bien plus vite déjà. On est beaucoup moins limité qu'à la canne. C'est une représentation mentale totalement différente à cause de cette vitesse. Du coup, les trajets à canne, avec du recul et même quand j'étais malvoyant, paraissent immenses. Principalement les lignes droites, C'est, ça paraît éternel qu'au chien guide, on retrouve un peu ce que j'avais pu vivre quand j'étais malvoyant, des trajets quand même bien plus ordonnés et une marche qui se rapprocherait plus de personnes valides, voire parfois, bah, dans mon cas, je marche un peu plus vite que la moyenne. En général, être guidé autant par un humain que par Hooper, c'est aussi une question, une grande question de confiance. Aujourd'hui, quand je me déplace, c'est grâce à Hooper et c'est pas je me déplace avec Hooper. Mmh. Et Hooper, la première fois qu'il m'a guidé, ben ça s'était très bien passé. Il avait juste manqué de me mettre dans un poteau. Et pour ça, ça peut paraître inquiétant, mais c'était normal. Il n'y avait pas de relation, il n'était pas confiant encore. Mmh. Et c'est un chien qui est hypersensible et qui n'a pas énormément de confiance en lui.
D'accord.
Et justement que je dois pas mal travailler ça avec lui. Et ce qui m'avait particulièrement rassuré, c'est que quand on était repassé à ce lieu pour retravailler ce domaine précis, eh bien, au lieu de retenter, il a compris qu'il y avait un problème à cet endroit et il s'est arrêté. Et le fait qu'il soit arrêté, ça m'a montré qu'il avait la volonté de réussir, mais qu'il ne savait pas comment s'y prendre.
D'accord.
Il m'a, on va dire, donné cette responsabilité, non pas de me guider seul, mais de l'induire sur comment il peut faire pour vraiment réussir. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part, et ça montrait vraiment son côté adaptatif, et c'est pas commun à tous les chiens. Mmh. Et pour le coup, ça a été vraiment quelque chose qui m'a rassuré, qui a fait aujourd'hui aussi que c'est un chien guide que j'affectionne autant et qui m'a été attribué.
Voilà. Oh, Younes. Ça y est, on arrive merci. Avec la pluie. Comment ça va?
Ça va. Hein.
Ça s'est bien passé?
Oui.
Ouais.
Oui.
Ah ouais, bon, tu nous as semé encore pour le retour. Hein.
Ah, pardon.
Ah, mais non, ne t'excuse pas.
Sauf exprès.
Mais non,
c'est ça marche normal.
Ouais, c'est bien.
Bon, ben, la prochaine fois, on fera quelque chose de. Ben, je ne sais pas si t'as. Oui, la prochaine fois, ce sera plutôt la gare, on a dit. Hein.
Ouais, on avait dit. Ouais.
La gare pour que tu puisses rentrer tout seul à Belfort.
C'est ça.
Voilà. Donc, prendre le tram.
Ouais.
Et puis, voir les piles d'arrêt du tram pour.
Nos géographies. Un documentaire réalisé par Anne Bouchard. Avec Younes Dany, Jean-Luc Boisselin, Enzo Sivade, Claire et Massimo Furlan. Montage, mixage, Chloé Truchon. Musique originale, Pierre Payan. Ce projet de documentaire a reçu le soutien de la Maison de l'architecture de Franche-Comté, du CCAS de la ville de Besançon, du Rotary Club, du Lions Club Besançon Lumière et de l'association Valentin Ahuy.